OA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, le procès d'Hissène Habré sera jugé à partir de juin au Sénégal. Le chaos libyen force 5000 personnes à se déplacer. Au Soudan, le Darfour est toujours en crise. Au Burkina Faso, le nouveau code électoral reçoit le soutien d'une partie de la société civile.
Il faut soutenir cette loi, ce code électoral qui, d'une certaine façon, permet de tranquilliser un tant soit peu cette transition-là et permet aussi d'éviter que des criminels puissent être absous.
Reportage de Zoumana Wonogo à suivre. Rubrique santé, un nouveau traitement expérimental contre Ebola. Éducation, campagne de vaccination contre la méningite dans les écoles au Niger. Sahel Plus, c'est tout de suite sur VOA Afrique. Ouvrons l'émission sur le procès d'Hissène Habré, l'ancien homme fort du Tchad. L'ex-président sera jugé au Sénégal à partir de juin. C'est ce qu'a affirmé le ministre sénégalais de la Justice. Plus de détails avec Bagassi Koura.
Maître Sidiki Kaba a annoncé que d'ici deux mois, lorsque les juges seront imprégnés du dossier, on entrera dans la phase active du procès, ajoutant que sans doute ça va être au mois de juin. Le ministre s'exprimait à Dakar lors de l'installation des juges des chambres africaines extraordinaires. Ce tribunal spécial chargé de juger Hissène Habré, la cour sera présidée par le juge burkinabé Berdao Gustave Kam, qui sera assisté de trois magistrats sénégalais. Ils ont été nommés par l'Union africaine qui a demandé au Sénégal d'organiser ce procès. Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, est inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Mais le ministre Kaba a précisé que si l'accusé est reconnu coupable, il ne sera jamais condamné à mort parce que le Sénégal a aboli la peine de mort en 2008.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Répercussions de la crise en Libye. Plus d'un demi-million de personnes ont été chassées de chez elles. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Croissant Rouge libyen. Selon cette organisation caritative, l'escalade de la violence armée a déplacé plus de 500 000 personnes depuis mai 2014. Jean-Roger Bien.
D'après le Croissant Rouge libyen, les combats ont chassé de leur maison plus d'un demi-million de personnes entre le 14 mai 2014 et début avril 2015. La capitale Tripoli a reçu plus de 126 000 déplacés et Benghazi, la deuxième ville du pays, 110 000, la plupart vivent dans des camps ou des écoles. Ce sont les premiers chiffres publiés par le Croissant Rouge libyen, mais ils ne prennent pas en compte les personnes ayant trouvé refuge chez des parents ni celles qui ont fui le pays. Le HCR estime à 100 000 le nombre de réfugiés libyens. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye a plongé dans la violence et le chaos politique avec deux parlements et deux gouvernements rivaux. L'un proche des milices Fajr Libya est basé à Tripoli, l'autre siégeant à Tobruk est reconnu par la communauté internationale.
Nous nous déplaçons au Soudan à présent, et plus précisément dans l'ouest du pays, dans la région du Darfour. Fin mars, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, avertissait le Conseil de sécurité de l'ONU qu'il n'y avait pas eu de projet tangible en un an pour résoudre le conflit dans cette région. Dans un nouveau rapport intitulé « Le chaos au Darfour », l'ICG, l'International Crisis Group, fait le même constat. Jérôme Toubiana est analyste pour l'ICG.
Ce qui se passe, c'est un petit peu une guerre de tous contre tous. Ce qu'on voit, c'est que le conflit, qui au départ était quand même d'abord un conflit entre gouvernement et groupes rebelles, est devenu un conflit entre des communautés extrêmement diverses, parfois à l'intérieur même d'une même communauté, et que toutes ces communautés, au cours de ce conflit, beaucoup d'entre elles en tout cas, ont réussi à acquérir des armes, en particulier en jouant le rôle de milices supplétives pour le gouvernement, et que maintenant elles utilisent ces armes essentiellement pour se battre les unes contre les autres.
Les chiffres publiés par l'International Crisis Group sont quand même assez effarants. Vous mentionnez que environ 450 000 personnes ont été déplacées en 2014 et près de 100 000 en janvier 2015.
En fait, ce ne sont pas nos chiffres, d'ailleurs, ce sont des chiffres des Nations Unies. Ils sont larges et relativement approximatifs. Ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder l'année 2013, où il y a eu des conflits justement entre milices arabes autonomes échappant au contrôle du gouvernement, où il y a eu déjà 450 000 déplacés. Et en 2014, la même chose, 450 000 déplacés. Donc on peut dire que depuis le début 2013, on en est effectivement à 1 million de déplacés, ce qui est assez comparable à la période la plus intense, la plus violente de guerre au Darfour en 2003-2004. Même si la violence est quand même un peu moins étendue aujourd'hui.
Le président Omar Hassan al-Bashir ne contrôle plus le pays.
Il contrôle quand même le pays et les rouages de l'État. Il a d'ailleurs ces dernières années beaucoup accentué son contrôle sur un premier cercle, notamment militaire, sur l'appareil sécuritaire. Le pouvoir s'est durci. Pour autant, l'État soudanais, et c'est pas propre au régime de Béchir, les régimes avant lui également, ont toujours eu du mal et se sont toujours montrés incapables de contrôler, disons, la totalité du pays, aussi bien militairement que parce qu'ils ont échoué en fait à avoir une présence de l'État plus positive que sécuritaire. En particulier, une des grandes causes des conflits au Soudan, c'est l'absence de développement et de services, d'éducation, de santé dans les périphéries du pays. Donc c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, évidemment.
Et les revenus du pétrole ?
Alors les revenus du pétrole, malheureusement, n'ont été que très peu utilisés pour cela, même si ils ont donné au pays pendant quelques années la possibilité de faire des choses. Et ils ont été d'ailleurs à ce moment-là, au moment du boom pétrolier, le régime était plus à l'aise. C'est ce qui lui a permis de partager notamment les richesses avec ce qui est devenu le Sud-Soudan et qui était à l'époque un gouvernement autonome. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ni le Soudan du Nord, ni ce qui est devenu le Sud-Soudan, n'ont vraiment utilisé leur richesse de l'époque, la richesse pétrolière, pour leur population. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'ils continuent à utiliser l'essentiel de leurs ressources pour d'abord militairement et sécuritairement alimenter leurs importants budgets militaires et sécuritaires, mais aussi pour toutes sortes d'activités plus que de développement à long terme.
Jérôme Toubiana, analyste de l'International Crisis Group, au micro de Camille Grosdidier. Le Burkina Faso, à présent, à l'appel des partis politiques et des organisations de la société civile, des meetings ont été organisés dans les principales villes du Burkina Faso pour soutenir la transition et surtout le nouveau code électoral qui exclut des prochaines élections les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré ayant soutenu ouvertement la modification de la Constitution. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
La transition burkinabé a entamé la seconde moitié de son parcours. Et pour le semestre passé, le point d'orgue aura été le nouveau code électoral qui n'avait pas eu le OK de la communauté internationale à cause de son volet interdisant ceux qui ont activement soutenu la modification de la Constitution. Mais au finish, les choses sont rentrées dans l'ordre après l'explication du texte de l'ambassadeur des États-Unis. Qu'est-ce qui a pu bien se passer dans la tête du président du Conseil national de transition, qui a valeur d'Assemblée nationale, entre ces deux faits? On écoute le président Chérif Sy.
Je pense que la communauté internationale a tout simplement respecté une décision souveraine au peuple burkinabé. Nous n'avons jamais douté en aucun moment que cette loi-là est en déphasage avec les aspirations fondamentales de notre peuple, sinon nous ne l'aurons pas pris.
Si le code électoral était la vedette du meeting, il aura vu sa suprématie égalée par le ministre de la Sécurité que la foule a réclamé par un standing ovation et pour cause.
On veut qu'il se prononce, parce que dans ces derniers temps, il a mené une bataille incontournable, une grande bataille qu'il a menée. Nous voulons le féliciter pour ce travail mené.
Sur insistance donc de la foule, le ministre de la Sécurité, le colonel Auguste Barry, a fait cette adresse. On écoute.
Je voudrais vous dire que quand on a commencé, on est obligé de terminer. Et notre vérité, quand on a commencé ensemble, on est obligé de terminer ensemble.
Adama Tapsoba, Lui, il est le secrétaire général de l'Association des blessés de l'insurrection. Il a vu les paroles du ministre de la Sécurité en tout réconfort. On l'écoute.
Le jour même quand on a pris le vote du corps électoral, mais je vous dis que les blessés, ils s'appelaient. Ceux-mêmes qui étaient vraiment, il y avait le mal toujours dans le corps, là, quand ils ont entendu qu'il y aura une vote pour interdire ceux qui ont soutenu, mais ils se sont rétablis automatiquement. Depuis ce jour, j'ai pleuré des larmes de joie.
Pour la réussite de la transition, l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré, la compare à un train.
Nous comptons, avec cette mobilisation, pousser, amener le train à arriver à bon port. Il y a une loi qui a été votée. Cette loi va s'appliquer. Si quelqu'un estime qu'il est touché par cette loi, comme on l'a dit, c'est son affaire.
Le rappeur Smokey, responsable du mouvement Le Valais Citoyen, insiste pour sa part sur le vote avec comme préalable l'obtention de la carte d'électeur. Il le dit.
Les gens doivent passer, après leur révolte, doivent passer au vote. Il faut soutenir cette loi, ce code électoral qui, d'une certaine façon, permet de tranquilliser un tant soit peu cette transition-là et permet aussi d'éviter que des criminels puissent être absous en entrant de plein pied dans un jeu politique quelconque.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. Rubrique santé à présent, et c'était pour vous annoncer du nouveau dans la lutte contre le virus Ebola. Une équipe de chercheurs de l'Université du Texas, associée à la compagnie canadienne Techmira Pharmaceuticals, vient de développer un traitement expérimental appelé TKM Ebola. Dans un essai effectué sur des singes, ce traitement s'est montré efficace contre Ebola, selon un article publié dans la revue Nature. Le docteur Dambitan Kosi, aussi chercheur à l'université Johns Hopkins, fait le point sur ce nouveau traitement.
Ils ont fait une avancée majeure dans la quête pour un traitement efficace, ciblant particulièrement l'espèce du virus Ebola qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest. Pour mémoire, jusqu'à présent, un traitement similaire, celui de ZMapp par exemple, a été administré plutôt dans l'espèce Zaïre. Cela étant dit, ce traitement est un peu comme le ZMapp. C'est une compagnie américaine, Techmira, qui l'a mise au point. Il y a eu des études in vitro et l'efficacité maintenant a été mise au test dans 6 singes macaques.
Ce nouveau traitement vous apparaît-il très encourageant?
Bon, c'est un traitement qui a des promesses, mais nous ne sommes qu'à l'aube. C'est une course de fond. Nous sommes à l'étape de l'expérimentation dans l'espèce animale. Il faudra maintenant, après avoir ajusté la dose, commencer l'expérimentation dans l'espèce humaine. Et si ces promesses-là sont maintenues, ce genre d'essai clinique ne pourra démarrer que peut-être en fin d'année, sinon en début d'année prochaine dans l'espèce humaine.
Et en général, il faut combien de temps entre les débuts des essais sur l'espèce humaine et l'arrivée des médicaments et des traitements dans les pays concernés?
Là, vous savez, hein, des fois, nous parlons de plusieurs années, hein. Parce que on peut démarrer une expérience, mais on ne sait pas avec les aléas du terrain et le financement et beaucoup d'autres imprévus. Et on ne sait jamais. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu autant de ressources qui ont ciblé le Ebola. Et je trouve que ça, c'est un développement très, très encourageant.
Le docteur Dambitan Kosi, chercheur à l'université Johns Hopkins, ici aux États-Unis. Jusqu'à présent, aucun traitement contre le virus Ebola n'a été homologué, mais plusieurs molécules, certaines expérimentales et plusieurs vaccins, ont été testés ou sont en cours d'évaluation. Au Niger, une campagne de vaccination massive contre la méningite a débuté suite à la progression de l'épidémie qui a déjà fait plus de 130 morts. La campagne de vaccination a pu finalement démarrer après l'arrivée de 600 000 vaccins dans le pays, mais malheureusement, cela ne couvrira pas les besoins des zones infectées, estimés à près de 1,2 million de vaccins. Plusieurs sources humanitaires ont même évoqué une pénurie à l'échelle mondiale, une pénurie de vaccins, bien sûr. Reportage sur cette campagne de vaccination dans les écoles avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Jusqu'à 10 heures, les vaccins se faisaient encore attendre dans la plupart des écoles que nous avons visitées ce vendredi matin. Ce père de famille avec ses enfants commençait même à s'inquiéter.
Et nous, on nous a dit de revenir le lundi et les enfants sont à la maison. Logiquement, on doit attendre normalement le lundi pour qu'on fasse ça. Mais ils nous ont appelé par le communiqué. L'inspecteur nous a appelé pour nous dire qu'il y aura la vaccination aujourd'hui. Mais jusqu'à cette heure-là, jusqu'à présent, on attend.
Quelques minutes plus tard, les équipes de vaccinateurs arrivent. Les enfants éclatent de joie. Une joie qui ne sera pas au rendez-vous pour tous. L'école compte en effet près de 300 élèves. Les équipes sont venues avec moins de vaccins.
Ça ne peut pas suffire. Ce n'est que le début. Il y a d'autres doses qui vont encore venir, mais ce n'est que le début.
Un peu plus loin, dans une autre école, nous avons trouvé des équipes qui ont déjà aussi fini leur stock de vaccins.
Ici, on est à l'arrêt de... On a commencé la vaccination depuis 10 heures. Tous les élèves de la classe ont été vaccinés.
Il y a bien sûr les heureux vaccinés et les malheureux qui attendent encore.
Je ne suis pas vacciné et je ne suis pas content.
Cette campagne a en fait débuté sans que le besoin réel en vaccins ne soit couvert, comme l'annonçait le ministre de la Santé la veille, Manu Agali.
Les besoins en vaccins, si nous devons considérer l'ensemble du territoire national, c'est l'âge de 2 à 29 ans. C'est 13 636 000 qu'il nous faut. Dans la zone où l'épidémie est déjà déclarée, nous avons besoin de 1 174 659 000. Avec ce qu'on a dit disponible, ce que l'État a acheté et ses partenaires, c'est 606 416. D'où un gap de 668 243.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Elvin Sangano. À la technique, Alfredo Santos. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel, sur VOA Afrique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec le nouvel album Alone des Terrakaft, les rockers du désert malien. L'album est annoncé pour le 8 mai, mais nous écoutons le morceau Tafouktélé, que l'on peut traduire par « Le soleil est là ». Nous l'écoutons en avant-première. Bonne soirée et bonne nuit à tous.